Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons Annie Diane Rosenman, maître de conférence en littérature à l'Université Paris 7 Diderot et membre de la commission Histoire de l'antisémitisme et de la Shoah à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à l'occasion de la sortie en livre de poche des alphabets de la Shoah aux éditions CNRS dans la collection Biblis. C'est un vaste panorama de ce nouveau pan de la littérature au XXe siècle qu'est la littérature de la Shoah que vous abordez dans cet ouvrage. Comme l'écrit Annette Viviorca dans la préface, vous avez tout lu, non seulement les textes des survivants, Primo Levi, Georges Samprin, Robert Antelme, Charlotte Delbo, Piotr Avitch, Anna Langfous, Aaron Appelfeld, Imre Kertész, mais aussi les historiens, les psychanalystes, les philosophes, les spécialistes de la littérature dont vous êtes, sans oublier Shoah de Claude Lanzmann. De ses œuvres et des questions qu'elle soulève, vous en rendez compte dans une langue élégante et sensible, une langue pleine de tact, si je peux dire. Au corps de votre livre, il y a cette question, cette interrogation, que peut la littérature face à la Shoah? Quel est son pouvoir? Quelle est sa légitimité? A-t-elle même droit de cité? Un cri ne s'écrit pas, constaté à son retour de déportation Anna Langfous, qui pourtant écrivit.
C'est exactement, je crois, cette tension qui est au cœur de toute écriture de témoignage et d'une certaine manière qui fait sa puissance. Alors vous parliez de la littérature de la Shoah, je pense qu'il y a tout un pan de la littérature qui existe et en même temps qui correspond à l'éclatement des limites du champ littéraire, mais ce ne sont pas seulement les rescapés de la Shoah qui l'ont constitué. Bien sûr, beaucoup de ces grands textes sont les textes de Primo Levi, de Anna Langfous, de Kertész, comme vous disiez, de Wiesel. Mais le XXe siècle est un siècle sanglant. On a pu vraiment parler du sanglant XXe siècle. Aussi bien à cause des génocides qui le scandent. Il y a le génocide perpétré contre les Arméniens, il y a le génocide perpétré au Cambodge, même si certains diront que c'est un autogénocide, il n'en reste pas moins qu'il y a cette visée génocidaire. Et puis, il y a une autre face de ce sanglant XXe siècle, qui est le goulag. Et cette littérature de témoignage, c'est donc une littérature qui va témoigner d'événements dont elle sait qu'il la dépasse, dont elle sait qu'elle n'a pas les mots pour les dire, mais sans jamais y renoncer. C'est-à-dire que c'est cette tension entre la nécessité d'écrire, certains diront le devoir, et je crois qu'il faut bien voir dans ces textes leur double dimension. Il y a le devoir d'écrire, le devoir de témoigner pour les autres, puisque dans les camps, dans les ghettos, la dernière parole que le survivant entendait était « Souviens-toi, n'oublie pas, raconte, tu diras ». Il y a cette très belle phrase dans le texte de Ravitch, « Le sang du ciel », où les jeunes qui sont destinés à survivre et qui se sauvent du ghetto entendent cette phrase « Étranger, vous allez le devenir à tout et même à vous-même, mais il ne reste qu'une seule chose à faire, témoigner, témoigner et que Dieu vous garde. » C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de témoigner pour les autres, c'est la dette envers les morts. Mais je crois, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de ce livre, on témoigne pour les autres, mais on témoigne aussi pour soi-même. C'est-à-dire que le survivant, le témoin, est quelqu'un qui a été confronté à une réalité qui le suffoque, qui le met hors de lui-même, littéralement. Il est dans une situation de passivité totale, il est dans une situation de désespoir où tout lui échappe, où il n'a même pas l'impression de comprendre ce qui arrive autour de lui. Et il me semble que le geste d'écriture, le geste de témoignage est d'abord effectivement un témoignage pour l'autre, comme dirait Primo Levi, où le rescapé témoigne pour le naufragé, mais où en témoignant, le rescapé, le survivant, va essayer de saisir ce qu'il a vécu, va essayer de, non pas de comprendre, mais au moins d'ajuster des moments totalement éclatés qu'il a vécu.
De retrouver une maîtrise de l'événement, vous
dites. De retrouver une maîtrise de l'événement, même si cela se situe dans l'après-coup et au niveau de l'écriture. Et je crois qu'on ne se rend pas assez compte de la douleur et du tourment du survivant lorsqu'il doit témoigner et lorsqu'il doit repasser par ses expériences. Primo Levi parlait de se retourner sur l'eau périlleuse du témoignage.
Le témoignage n'est pas sans risque pour celui qui témoigne.
Le témoignage n'est pas sans risque. Alors, il est difficile, il est toujours très difficile de savoir, de donner une explication. Il est à la fois difficile et un peu arrogant de vouloir donner l'explication d'un suicide. Mais il est vrai que beaucoup de survivants, on a parfois l'impression qu'ils étaient comme en sursis et qu'ils ont fini par se témoigner. La question est une question importante. Se sont-ils suicidés parce qu'ils sont revenus sur leur chemin? Se sont-ils suicidés parfois parce qu'ils ne l'ont pas voulu le faire? Y a-t-il une écriture, comme le dit Rachel Rosenblum, qui peut à la limite protéger le témoin? Il est certain, par exemple, que pour Primo Levi, entre l'écriture de « Si c'est un homme », qui est une écriture relativement pleine de l'espoir que témoigner va servir et qu'on peut témoigner, et l'écriture des naufragés et des rescapés, qui est pleine du désespoir à la fois de celui qui a l'impression que son témoignage n'a pas servi, mais aussi de celui qui va aller creuser, chercher des questions dont les réponses sont très douloureuses, puisque chacun des survivants a parfois l'impression que si, et c'est ça l'horrible comptabilité génocidaire, c'est qu'on accule des êtres humains à l'idée que s'ils survivent, c'est toujours aux dépens de quelqu'un d'autre, que c'est toujours une vie pour une autre. Et quand cette question est posée, et qu'elle est posée par Primo Levi dans
ses poèmes.
Dans ses poèmes, beaucoup dans l'écriture des poèmes, qui ouvrent chacun des... on a l'impression parfois qu'ils écrivent au-dessus de gouffres.
Un aspect que vous avez bien mis en évidence concerne l'ambivalence par rapport à la culture aussi qui se fait jour après la Shoah. Vous citez Romain Gary qui dit « La culture, c'est lorsque les mères qui tiennent leurs enfants dans les bras sont dispensées de creuser leur tombe. » Et comment cette ambivalence se traduit-elle dans la littérature? Parce que la culture, c'est aussi, à un moment donné, ce qui va aider les victimes à survivre, puis ensuite les rescapés, à s'inscrire, les aider à s'inscrire dans la chaîne.
Absolument.
Humaine.
Je crois qu'on assiste à un double mouvement. Un mouvement qui est une remise en question de la culture humaniste et d'un certain nombre d'illusions issues du siècle des Lumières. La culture n'a pas fait barrage à la barbarie. Et c'est le constat que fait pratiquement chacun des témoins. En tout cas, chacun des témoins appartenant à l'ère culturelle où on croyait dans la force de la culture.
C'est en ce sens qu'on peut entendre la phrase d'Adorno, écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare, dans le
c'est
sens
une
où
sorte de...
la culture est devenue indécente, superflue, inutile peut-être,
ou en tout cas, il y a une
impuissante.
Voilà, son impuissance fait qu'il y a une sorte de reniement de la culture, même si on cite souvent cette phrase d'Adorno, que lui-même a très souvent, il y est revenu à plusieurs reprises. Et il l'a vraiment nuancé. Mais je crois qu'on peut admettre que si c'est cette phrase-là qui circule,
qui est restée,
voilà,
en tout cas,
c'est qu'elle correspond. Donc il y a une remise en question de la culture. Je voudrais d'ailleurs rapidement dire que c'est quelque chose, c'est un mouvement parallèle. C'est-à-dire que chez les religieux, une partie des religieux, la remise en question, c'est celle des croyances religieuses. Et pas chez tous. Et chez ceux qui participent d'une culture donc, qui se dit humaniste, c'est la remise en question de cette culture, à la fois de ses illusions et de son extraordinaire autosatisfaction. Mais, et c'est ce que vous disiez, si au total c'est une remise en question, n'en reste pas moins que de manière extrêmement modeste, mais ce qui les aide à vivre, chacun, je dirais, des actes de culture, où chacun des moments où l'on partage une culture va permettre, va permettre la survie. Et je prends culture au sens très large, non pas culture au sens d'une accumulation de connaissances ou d'érudition, mais comme le dit de manière très belle Nathalie Salzmann, si la culture est ce qui fait lien entre les hommes et ce qui leur permet justement de vivre ensemble. Alors la culture, on peut en voir tout un éventail, on peut citer tout un éventail de moments. Cela peut être le moment où les religieux, les juifs religieux, vont réciter ensemble une prière. Et il y a ce passage chez Kertész, qui pourtant magnifique, n'est pas un juif religieux, où il est debout et qu'il s'aperçoit qu'il est pris dans un lent mouvement des corps qui se balancent. Et il s'aperçoit que c'est la prière, justement, qui, à ce moment-là, fait lien entre les hommes. Cela peut être un poème. Les grands moments, justement, qui font pause dans l'horreur du quotidien. Alors, ce sont des moments qui, bien sûr, sont devenus très célèbres. Si c'est dans le monde concentrationnaire, c'est ce moment où Anthelme va essayer de reconstituer avec ses camarades, alors lui était dans un camp de concentration, pas reconstituer ce que nous avons tous appris à l'école, heureux qui comme Ulysse. Et voilà des êtres réunis autour de ce qui fait lien. Ça peut être ce magnifique passage où Primo Levi, avec Piccolo, va essayer de retrouver les vers dedans.
Il dit « Je donnerai ma soupe d'aujourd'hui pour trouver la jonction entre les vers. »
Pour trouver la jonction. Et ce que nous comprenons tout à coup de cette culture-là, c'est qu'il y a un double mouvement de la culture. C'est que ce que Primo Levi n'a pas de mots pour dire, d'une certaine manière, Dante lui prête quelques-uns de ses mots pour le dire. Mais en même temps, Primo Levi se rend compte qu'il n'avait pas vraiment compris Dante et qu'une fois au camp, l'expérience qu'il a vécue lui permet de lire et de comprendre autrement le poème. Et je crois qu'en effet, mais la culture, ça peut être aussi quelque chose d'encore plus modeste. C'est, je crois vraiment qu'il y a cette destitution d'une culture que l'on croyait absolument immunisée contre la barbarie. Et, encore une fois, très modestement, la reconnaissance que ce sont ces moments de culture qui ont permis pas seulement de survivre physiquement, mais aussi de survivre en essayant de rester un homme.
Il y a une autre question que vous vous posez. Je vais vous citer parce que c'est le plus simple. Vous vous demandez dans la troisième partie de votre livre, donc il y a première partie, survivre, ensuite témoigner, troisième partie, c'est écrire. Vous demandez si les textes donc, qui se confrontent à l'événement ont inauguré de nouvelles formes esthétiques ou bien ils ont mis en œuvre et radicalisé les nouveaux codes d'une modernité littéraire qui prenait ses racines dans les charniers de la Première Guerre mondiale. Oui. Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas facile d'y répondre de façon unilatérale. Mais...
Oui, ce qui est certain, c'est que c'est une écriture qui, c'est une écriture qui se fait dans le tourment. On est dans une écriture qui doute d'elle-même, qui doute de ses mots, qui doute de sa légitimité, qui doute de son efficacité, puisque je crois qu'il est important de revenir sur cette question de délégation. On parle aussi pour les autres. On parle et on n'a pas les mots. Alors pendant des années, ça revient de manière lancinante. Il n'y a pas de mots, les mots se sont fanés, il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain. Puis ce ne sont pas seulement les mots, il est difficile de concevoir ce qu'on raconte. Comment partager l'expérience? Alors de ce point de vue-là, oui, on peut dire, si vous voulez, que c'est une sorte de choix d'écriture qui se font en effet déjà au moment de la Première Guerre mondiale, puisque c'est là que naît la figure du permissionnaire muet qui va revenir. Mais il est certain que ce refus de la littérature, que cette méfiance envers les mots, parce que les mots pourraient donner sens à ce qui n'en a pas, pourraient enjoliver l'horreur de ce qui a été vécu, et affirmer, et qu'on a un certain nombre de procédés qui sont les procédés d'une littérature qui ne se fait plus pendant un temps confiance à elle-même. On pense à ces mots de Maurice Blanchot, qui finalement dit que ce que l'époque nous dit, c'est non pas de parler, mais de nous taire, je cite de mémoire. Mais en même temps, je crois qu'il faut comprendre que tous ces écrivains ont lutté contre une notion qui était paresseuse, qui était la notion d'indicible. On ne peut pas le faire, mais on le fait quand même. Il faut écrire. On ne peut pas écrire, mais il faut écrire. Et je crois que toutes
ces... Vous parlez d'une lutte, hein, effectivement.
D'une lutte avec les mots.
Lutte avec les mots.
Le terme que j'essayais de... Enfin, qui me semblait, c'était la lutte avec l'ange de l'écriture.
Avec l'ange de l'écriture.
Parce que c'est
et
un...
Et qui se traduit par un texte brisé. C'est aussi une de vos expressions. Dans le cas de Charlotte Delbault, par exemple, vous parlez d'un texte brisé.
Un texte brisé, un texte
dont
trouvé.
Le fragment est l'emblème, emblèmes, on va dire.
Vous avez raison. On peut parler certainement de texte brisé. D'ailleurs, brisé au niveau de la forme et brisé aussi au niveau de ce qui surgit, parce qu'il surgit au niveau de la mémoire. Simplement, vous le savez, toutes les formes finissent par devenir, je dirais...
canoniques, peut-être.
Voilà. Et il est vrai que le fragment a fini par devenir une sorte de forme un peu canonique de cette écriture, et qu'il s'agit pour les écrivains de trouver d'autres chemins, de trouver d'autres sentiers d'écriture, dans le désespoir en même temps de pouvoir en trouver qui soit véritablement nouveau. Alors nous parlions de Pérec pour une autre génération, je pourrais parler de Ravitch. Ravitch propose un texte absolument brisé, où on passe du poème à la réflexion philosophique, de l'adresse à Dieu, à un passage lyrique. Et il y a donc cette certitude, il faut écrire, mais il faut écrire autrement. Et vous parliez tout à l'heure de Lanzmann, je crois qu'en effet, peut-être si l'on réfléchit à ce qu'a fait Lanzmann, non seulement il a donné aux témoignages et aux témoins, il leur a donné la plénitude de leur voix. C'est-à-dire que quand Lanzmann écoute le témoin, et c'est ce que nous faisons, je crois, avec les textes, il n'y a pas de voix off. Il y a juste notre silence pour accepter cette parole. Mais il a dû pour cela fabriquer une forme nouvelle.
Parmi les autres règles, d'ailleurs, esthétique ou éthique, hein, comme on les qualifiait, qu'énonce Claude Lanzmann, il y a celle de refuser la chronologie, de refuser tout ce qui pourrait induire une forme de cohérence, en fait.
Alors, chez Lanzmann, c'est une évidence et c'est volontaire. Je ne suis pas certaine que pour d'autres écrivains qui, effectivement, ne respectent pas la chronologie, mais ce n'est pas... Je crois que là, il y a une très très grande modestie à avoir, une très grande écoute. Chaque texte a frayé son chemin. C'est-à-dire que si vous lisez Primo Levi, vous vous apercevez qu'il y a en effet une chronologie qui fait que l'on démarre au camp de Fossoli, c'est-à-dire avant qu'il ne parte en Allemagne, qu'il y a des moments comme ça qui se succèdent, mais que ce n'est pas cela qui fait la force du texte. Ce qui fait la force du texte, ce sont des moments offerts au lecteur en partage. Quoi qu'en dise Primo Levi d'une écriture, une très belle écriture, Primo Levi est un grand écrivain, est un grand témoin, et que ce sont ces moments-là, je crois, je pense... au moment où il y a un détenu, Steinlof, qui lui dit qu'il faut se laver, qu'ils sont sans doute condamnés, mais qu'il y a une chose à faire, c'est refuser son consentement. Je veux dire, quand on a lu ces passages, il y a le moment de l'arrivée, il y a le moment qu'on évoquait. Donc il y a à la fois une chronologie chez Primo Levi, mais il y a quelque chose qui serait comme des scènes. Et ce sont ces scènes-là qui le donnent en partage. Et si vous le permettez, c'est peut-être une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il me semble que la différence peut être ce qui fait que certains témoignages sont de très grands témoignages, c'est qu'ils sont offerts en partage à leur lecteur. C'est-à-dire qu'un témoignage est toujours adressé à quelqu'un. Il est toujours adressé à quelqu'un qui va l'accueillir avec l'espoir qu'il deviendra, c'est une expression là aussi devenue courante, le témoin des témoins. Mais peut-être que les textes les plus forts sont ceux qui montrent le moins de complaisance envers le narrateur, envers soi-même, qui essayent presque de faire disparaître le jeu du narrateur dans un nous, qui est le nous de cette communauté blessée, mais qui sont adressés de façon extrêmement forte. Et je vous rappelle que le texte de Primo Levi, par exemple, s'ouvre sur une injonction.
Mais c'est le nous de la communauté, le nous de l'humanité, finalement, oui. Dans lequel oui. Nous sommes inclus.
Je crois que pour chacun des témoins, il y a ce jeu qui est inclus dans un nous et cet aller-retour entre nous, les détenus, nous, les détenus de tel camp, nous, les survivants, et nous, les hommes. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans ces témoignages, de ceux qu'on a voulu exclure de l'humanité et qui, par leur écriture, affirment justement une commune appartenance. Ce n'est pas un hasard si un certain nombre de textes s'appellent « Si c'est un homme, l'espèce humaine », c'est bien cette affirmation, je le répète, par l'écriture et au moyen de l'écriture de cette humanité commune.
Et c'est une réaffirmation aussi de la subjectivité du témoin qu'on a voulu, subjectivité qu'on a voulu justement broyer. Vous le montrez très bien, quand vous comparez le traitement d'une scène qui revient dans différentes œuvres, celle de la cérémonie de la pendaison. Vous dites selon, elle est traitée différemment dans les œuvres de Georges Samprin, par exemple, d'Elie Wiesel, de Primo Levi.
Et je n'utiliserais peut-être pas le terme de subjectivité qui pourrait, bien que vous ayez raison, je dirais peut-être que chacun témoigne et voit une réalité avec ce qu'il est. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de cette scène de pendaison, qui revient en effet, puisque les Allemands adoraient ce cérémonial, chez Wiesel, cette scène de pendaison aboutit à la certitude de la mort de Dieu, mais de la mort de Dieu dans l'âme d'un enfant. Celui qui est pendu, dit-il, c'est Dieu. La même scène, vue avant d'être racontée, vue par Primo Levi, revient à la certitude, à la compréhension que ces détenus qu'on a obligés d'assister à la pendaison de l'un des leurs et un calot à la main et sans bouger, sans protester, est la preuve que les Allemands, les bourreaux, ont réussi une partie de ce qu'ils voulaient, puisque c'est la destruction de l'homme. Et pour chacune de ces scènes, il me semble qu'elle est effectivement revue, repensée au prisme de ce que chacun est. Et je crois que ça nous amène aussi à cette certitude. On témoigne pour l'autre, l'engloutit, mais à chacune des générations d'écriture, quand on témoigne aussi de soi.
Merci Annie Diane Rosenman. Nous vous recevions à l'occasion de la sortie de votre livre « Les alphabets de la Shoah, survivre, témoigner, écrire » en livre de poche aux éditions CNRS, collection Biblis. Et je rappelle que vous avez aussi écrit, en tout cas coordonné, un ouvrage collectif qui s'appelle « Un ciel de sang et de cendres, Piotr Ravitch et la solitude du témoin ». Piotr Ravitch, auquel nous avons consacré une émission que vous pourrez retrouver sur notre site www.rcj.info, www.mémoirevive.net. C'était Mémoire Vive. À dimanche prochain.